Bonjour à tous, bienvenue, vous êtes dans le collimateur de l'actualité. Nous sommes aujourd'hui le 26 janvier 2022. Kerwin Maïso, Vianney Misoumbi, Magloire Mbembi. À retrouver sur Sud Global Radio et sur la chaîne YouTube Kerwin Maïso et aussi sur votre lecteur favori de podcast. N'hésitez pas à partager, à aimer et surtout à vous abonner. Encore une fois, bienvenue à tous. Aujourd'hui, du RIFIFI à l'UDPS, l'Union démocratique pour le progrès social, le parti de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et en deuxième partie d'émission, nous parlerons de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN. C'est la CAN de toutes les émotions. Kerwin Maïso, bonjour.
Bonjour Magloire, Pembinkosi, bonjour Vianney Misoumbi. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui pour parler du sujet à l'ordre du jour.
Alors, Kerwin Maïso, dans un tweet partagé le 14 janvier dernier, Jean-Marc Kabound, vice-président de l'Assemblée nationale et président de l'UDPS, le parti du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, annonçait sa démission à la suite du saccage de sa maison par des éléments de la garde républicaine commis à la sécurité du président Tshisekedi. Avant d'analyser les tenants et les aboutissants de cet acte, pourrais-tu, Kerwin, rapidement rappeler un peu le déroulement des faits? Que s'est-il passé chez Jean-Marc Kabound?
Bon, il s'est passé qu'un jour avant la date où la garde républicaine est passée chez lui, autrement dit aux environs, je crois, du 12 ou du 13 janvier, Jean-Marc Kabound, qui habite les quartiers de Kingabo à Kinshasa, Kingabo qui est au bord du fleuve Congo, était en train de se rendre vers le centre-ville, probablement au Palais du Peuple, suivi comme d'habitude par un long cortège encadré par des policiers. Il a croisé en sens inverse sur l'avenue des Japonais ou l'ex-avenue des Poids Lourds. Bon, on l'appelle l'avenue des Japonais parce qu'apparemment, c'est la coopération japonaise qui a réfectionné cette avenue. Jean-Marc Kabound a croisé un véhicule appartenant à un parent de Félix Tshisekedi. Alors, le véhicule appartiendrait à une dame du nom de Tshisekedi. Certaines sources parlent de demi-sœur de Tshisekedi, d'autres sources parlent de cousine. Donc, ils se sont croisés en sens inverse. Et le vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, s'est transformé en régulateur ou en policier de roulage. Il est descendu et il y a eu une altercation et le garde républicain qui était dans le véhicule qui roulait en contresens en violation du code de la route et qui protégeait un membre de la famille présidentielle a été défenestré du véhicule, humilié et arrêté. Ce qui fait que la garde républicaine, le soir, est allée en mission expéditive et punitive dans la résidence à Kingabo de Jean-Marc Kabound. Les meubles ont été renversés, des photos jetées par terre, de la nourriture renversée, des chaises cassées, c'était quand même assez violent. Et c'est une mission qui a duré, c'était le soir, hein, donc qui a duré une bonne partie de la soirée jusqu'à la tombée de la nuit.
Jean-Marc Kabound n'était pas à son domicile en ce moment-là.
Il n'était pas à son domicile. Il y est revenu à la fin des événements pour constater les dégâts et ce qui a conduit à l'émission de ses tweets ravageurs, qu'il n'acceptera plus les humiliations et qu'il démissionnait de son poste de vice-président de l'Assemblée nationale.
Mais c'est quand même un peu curieux. Quelle est la relation qu'il faut faire entre le fait que la garde républicaine ait attaqué sa résidence et le fait de démissionner de son poste à l'Assemblée nationale? Quelle est la relation logique qu'on établit entre les deux?
Ben, la première relation, c'est que en tant que vice-président de l'Assemblée nationale et membre de l'UDPS, donc parti au pouvoir, déjà en tant que député, il a des immunités. Et sa résidence, en tout cas, comme il utilise aussi des bureaux dans cette résidence, est censée être inviolable. Donc, quand la garde républicaine vient le soir sans mandat, en mission punitive et expéditive, sans respecter son rang déjà et ses immunités en tant que député, c'est quelque chose qui choque. Donc, étant donné qu'il ne s'est senti ni protégé par l'institution où il travaille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un communiqué des protestations du bureau de l'Assemblée nationale, sans protection de la part du parti au pouvoir, autrement dit son parti politique, l'UDPS, dont il est le président intérimaire et dont Félix Tshisekedi est illégalement le président, il aurait, en tout cas, il aurait été peut-être préférable un peu plus, je vais dire, un peu plus formel que l'UDPS fasse un communiqué de protestation. Alors, ayant remarqué que d'un côté, l'Assemblée nationale n'a pas réagi, de l'autre, son parti politique n'a pas réagi, surtout son parti politique, et son chef, je veux dire, le leader de leur parti politique, Félix Tshisekedi, je pense que Jean-Marc Kabound a considéré que c'est un casus belli, donc il devait démissionner. Mais l'autre raison, c'est que l'incident impliquait une personne de la famille du président. Donc le silence du président ou le silence de l'Assemblée nationale peut être interprété comme si ces deux institutions prenaient parti pour la famille présidentielle. Il y a une célèbre chanson de Koffi Olomide où il dit en lingala « Mwana mokonzi akota kabolo kote », ce qui veut dire que le prince ne fait pas la prison, hein, s'il faut traduire de la manière la plus simple qui soit. Autrement dit, quel que soit le problème que vous pouvez avoir avec un membre de la famille présidentielle, la famille princière, la famille régnante, eux n'auront jamais tort. C'est contre vous que toutes les incriminations tomberont. Donc moi, je pense que c'est une façon pour lui, comme un garçon dans une cour de récré, d'exprimer sa désapprobation.
Mais dans ces conditions-là, pourquoi il s'arrête juste à la démission de la vice-présidence de l'Assemblée et pas remettre non plus son mandat de député? Par exemple, pourquoi est-ce qu'il ne va pas jusqu'au bout de cette logique pour dire que le parti ne me soutient pas, la structure Assemblée ne me soutient pas, donc je ne vois pas ce que je fais ici et il devrait claquer la porte aussi bien de l'Assemblée, même en tant que député, mais aussi claquer la porte du parti carrément et abandonner la présidence.
Ça, c'est sans compter que nous avons affaire à un membre de la classe politique congolaise. Or, la classe politique congolaise est considérée par d'aucuns comme étant la classe politique la plus pourrie, la plus corrompue et la plus toxique, une des plus toxiques au monde. Donc, du coup, il ne fonctionne pas comme cela se ferait ailleurs. Ailleurs, il y a un code d'honneur, il y a les lois, il y a tout ce qui est formel qui rentre en ligne des comptes, tandis qu'au Congo, c'est d'abord les intérêts personnels. Et l'intérêt supérieur et personnel de M. Jean-Marc Kabound, c'est s'il perd au moins 100 000 dollars de salaire, c'est ce qui touche à peu près le vice-président de l'Assemblée nationale, s'il va perdre au moins 100 000 dollars de salaire par mois, il ne veut pas perdre ce qui lui reste, entre guillemets, d'humilité par rapport aux autres. Hein. L'humilité n'existe pas lorsqu'on s'attaque à la famille présidentielle, mais peut-être par rapport aux autres protagonistes éventuels, l'humilité peut toujours jouer. Donc, il va chercher à garder les humilités et avoir une certaine main aussi sur l'UDPS, parce que en filigrane, et si on regarde tout ce qui s'est passé après, on se rend compte que le problème n'est pas que cet incident. Le problème va au-delà de cet incident. Et au-delà de cet incident, c'est quoi le problème? C'est le mode de fonctionnement de l'UDPS. Dans l'UDPS, c'est un parti qui est arrivé au pouvoir, qui est resté d'abord longtemps dans ce qu'on peut appeler l'opposition. Ils étaient souvent dans la rue. Bon, ils n'ont pas produit des citoyens, mais ils ont fabriqué des fanatiques. C'est un parti sectaire, tribal et qui fonctionne comme une secte avec un gourou. Hein. Les gourous, c'est un des membres de la famille Tshisekedi, toujours un. Si c'est pas le père, c'est peut-être le fils qui a suivi le père en politique, bon, il y a aussi la mère à côté, ce qui fait qu'il y a une prière que les Congolais disent de façon prosaïque pour parler de membres de l'IDPS. Ce sont des personnes qui prient au nom du père et du fils et de la maman. Voilà, donc ça fonctionne comme une secte.
Et Jean-Marc... Pas seulement les Congolais, parce qu'on a vu des partisans de l'UDPS filmer en vidéo, faire la prière, au nom du Père, il y a Titi.
Et tu sais qui dit, et du Fils, il y a Titi.
Et, voilà. et du Saint-Esprit, le peuple d'abord. Donc là, le comportement religieux, n'est pas seulement du fait du regard extérieur, mais eux-mêmes aussi, dans leur comportement, l'ont manifesté symboliquement. Et donc la maman serait la Vierge Marie, c'est ça?
Oui, sûrement. Alors, dans cet environnement sectaire, Tshisekedi étant considéré comme un gourou, tout le monde le vénère. Et il n'accepte pas la montée en puissance de qui que ce soit. Dans ces marigots, il y a un seul croco. Tout celui qui va émerger, la tête sera tranchée. On connaît les cas de Moubaké, on connaît les cas de Moleka, qui était secrétaire général, Moubaké, qui était presque le dauphin putatif. On connaît les cas de Mutanda. Il y a beaucoup de gens dans l'UDPS, même Chabani, l'actuelle personnalité qui s'occupe de l'organe électoral de l'UDPS. Donc, à l'UDPS, dès qu'il y a une tête qui émerge, dès qu'il y a des velléités ou une expression un peu plus claire de l'ambition, ou lorsque on affiche son intelligence de façon ostentatoire, ça risque de faire ombrage à l'héritier du trône sectaire de la famille tribalo-politique Tshisekedi. La tête doit être coupée. Et Jean-Marc Kabound, ayant très largement contribué dans les négociations qui ont amené à la nomination électorale de Félix Tshisekedi, s'estimait être en droit d'avoir des privilèges spéciaux. Sauf qu'il a oublié qu'il est dans l'UDPS. Et que chaque fois que vous entrez en confrontation avec Tshisekedi, toute la machine politico-tribale va se mettre en place et pour écraser. Même Kamere, qui a signé juste un accord de coalition, vu son intelligence, vu sa personnalité, vu qu'il serait comporté comme un vice-président lorsqu'il était directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, la machine à broyer s'est mise en mars, en branle, et on l'a broyé. Donc Jean-Marc Kabound, s'il menace, c'est un message subliminal qu'il envoyait au président de la République en disant que si vous pensez me tenir parce que j'ai un poste qui ne m'agrée pas, j'ai des ambitions pour beaucoup plus par rapport à mon rôle. D'ailleurs, n'arrêtez pas de le répéter. Ah, vous savez, s'il est devenu président, vous ne savez pas qu'est-ce que nous autres on a fait. Vous ne savez pas comment nous nous sommes investis. Il le disait même à la garde républicaine. Vous ne le connaissez pas. C'est nous qui le connaissons. Et tous les membres de l'UDP savent qu'il a perdu son fils aîné de manière peu élucidée. Ben, on peut toujours mettre ça dans le compte de ses activités politiques. Donc, c'est quelqu'un qui veut faire comprendre à Tshisekedi que le poste que j'occupe actuellement ne m'agrée pas, je n'y trouve pas mon compte, parce que au sein de l'UDPS, il y a deux camps. Il y a les institutionnels, ceux qui ont lutté dans la rue pendant des années et des années, qui ont avalé des grenades lacrymogènes et qui ont subi la répression policière, et certaines personnes venues de Bruxelles, disons de la Belgique, de la France, du Canada, des États-Unis, et qui sont conseillers à la présidence, avec rang de ministre, et qui se comportent en gouvernement parallèle, et qui se font beaucoup d'argent, ça se chiffre en millions de dollars, en détournement. Et ceux qui étaient sur place au pays, qui étaient vraiment au charbon, ils ont comme l'impression de ramasser des miettes. Et le message que Jean-Marc Kabound a envoyé à travers cette démission, c'est dire juste que je ne vais pas me contenter de ce poste, je peux déjà tout lâcher, au niveau de l'Assemblée nationale, et me retrouver dans une posture où je peux vous combattre, en tout cas en ayant les mains libres. Voilà, parce que le poste de vice-président de l'Assemblée nationale, pour Jean-Marc Kaboum, c'est une espèce de camisole qui l'empêche d'avoir toute la liberté de mouvement pour exprimer tout ce qu'il a comme ambition, mais malheureusement aussi comme ressentiment par rapport à l'ingratitude de la famille Tshisekedi.
Vous avez affirmé tout à l'heure que ses revenus par rapport à ce poste se chiffraient à 100 000 dollars par mois.
Ben, en tout cas, selon la grille des salaires qu'on a vu, si les députés sont autour de 13 000 dollars par mois, au niveau du bureau, ça va se jouer à 10 000 dollars. Après, je crois, le président, c'est 120 000 et le vice-président, je crois, c'est 100 000. Bon, ça se joue à une dizaine de milliers de dollars près, mais on y est presque.
On rappelle quand même qu'on est dans un pays très pauvre et la majorité de la population vit avec moins d'un dollar par jour.
Et on ajoute que malgré cette pauvreté, par rapport à la loi budgétaire de 2019, le président avait un salaire plus ou moins aux environs de 2 300 000 dollars. Et si on regarde la loi budgétaire de 2020, le président a un salaire de plus ou moins 1 000 000 dollars.
Donc, à vous
par mois, hein, par mois.
Ok. À entendre cette analyse, finalement, ce qui s'est passé, ça n'a juste que servi de révélateur au fond. En fait, il y avait déjà de l'eau dans le gaz et l'incident avec la garde républicaine a été quelque part un révélateur.
La goutte d'eau qui a fait déborder les vases.
L'occasion de se rendre compte que ça n'allait pas dans la machine UDPS.
Mais ça ne pouvait pas aller dans la machine UDPS. C'est une machine très peu démocratique. L'ancien président y est resté, mais presque à vie, jusqu'à sa mort. Il a falsifié les textes sans recourir, sans user de la procédure légale telle que établie par les statuts de l'UDPS. Félix Tshisekedi est arrivé à la tête de l'UDPS en violation des textes. Et c'était une élection mais illégale et illégitime qui s'est déroulée mais complètement la nuit, à des heures peu usuelles. Bon, il s'est retrouvé président de l'UDPS. Et après, candidat, bon, on ne l'a pas choisi comme candidat de l'opposition dans un premier temps en Genève, ben ensuite dans sa coalition avec Vital Kamerhe, la coalition qu'on appelle CAP pour les changements, donc CASH en abrégé, il s'est retrouvé candidat aux élections présidentielles, il a été battu à plate couture, et il va aller négocier un accord de nomination électorale, entre guillemets, derrière les dos de ses camarades de l'opposition, et s'est retrouvé président sans programme, sans expérience, avec un parti politique qui a passé le clair de son temps à crier dans la rue, mais il n'y avait pas de réflexion idéologique, il n'y avait pas de plan de bataille, il n'y avait pas de projet de société, ni même de programme électoral digne de ces noms. Donc du coup, à l'improviste, bon, ils se sont retrouvés au pouvoir sans préparation et les gens se sont dit, comme c'est un pouvoir qui n'émane pas du peuple mais qui émane du prédécesseur qui avait à l'époque encore la main à 100% sur ces dossiers, ils se sont dit, on peut les défenestrer mais très rapidement de là. Alors la seule chose à faire, c'est il faut accumuler les richesses mais le plus rapidement possible, se mettre déjà à l'abri du besoin et à l'abri du besoin individuellement, mais sur le plan parti politique aussi. Parce que s'il y a des élections qui viendraient, qu'ils soient capables de battre campagne, parce que même leur congrès, ils étaient incapables de louer une salle. Ils l'ont fait dans une parcelle sous des tentes. Tellement qu'ils étaient fauchés et ils en étaient obligés de tendre la main vers, par exemple, Moïse Katumbi, qui leur jetait le bol en espérant faire une offre publique d'achat, un OPA, pardon, sur l'UDPS. Donc, toutes ces raisons ont fait que nous puissions voir ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que peut produire l'incurie des cadres de l'UDPS et leur incompétence. Alors là-dedans, c'est des luttes des classes, de ressentiments, la guerre entre ceux qui étaient derrière Vital Kamerhe, par exemple, et ceux qui sont avec l'UDPS, la lutte entre, par exemple, les gens du PPRD, mais qui sont devenus sympathisants de l'UDPS pour des raisons tribales, avec ceux qui étaient déjà dedans, la lutte entre ceux du pays contre ceux venus de l'étranger, notamment de l'Occident, qu'on appelle, entre guillemets, la diaspora. Donc, il y avait comme ça des luttes intestines et c'est une espèce de monstre qui fonctionne tellement en désordre. Ce que nous voyons là, c'est juste des effets collatéraux de la pourriture qui est à l'intérieur de l'UDPS.
Une dernière question sur le sujet. Qu'est-ce que cet incident peut nous donner comme renseignement sur la capacité de gouverner de l'UDPS ou sur la gouvernance de l'UDPS et par ricochet la gouvernance du pays, puisque c'est quand même ce pays qui, pardon, c'est quand même ce parti qui est aujourd'hui aux manettes?
Ben, cela montre clairement que le pays est entre les mauvaises mains. Le pays est entre les mains de gens qui sont incompétents, inexpérimentés, et pire, hein, c'est des gens sans personnalité, beaucoup de goujats parmi eux, on voit leur comportement, des conseillers à la présidence qui se battent sur la place publique, et c'est une organisation qui ne donne pas l'impression d'être un parti politique, mais qui donne l'impression d'être une espèce de groupe mafieux, et qui a un mode de fonctionnement bizarre, mais vraiment à la marge. C'est une organisation où on trouve tout autour de l'UDPS, dans la nébuleuse UDPS, on voit graviter tout autour un groupe de personnes qui roulent à moto, on les appelle les Wewa, mais moi je dirais plutôt une espèce de brigade tribalo-motorisée. Ils ont, dans les réseaux sociaux, des insulteurs publics, que moi j'appelle bataillon Mafinga, s'il faut traduire en français, c'est les bataillons des insulteurs. Ils ont tout un circuit de pasteurs des églises de réveil. Dieu seul sait combien ces églises de réveil sont nuisibles et influentes à Kinshasa. Et quand on a ces réseaux de pasteurs des églises de réveil, on contrôle spirituellement une bonne partie de la population de Kinshasa. Ils ont tout un réseau de désœuvrés qui font ce qu'ils appellent une espèce de débat politique dans la rue. On les appelle les parlementaires debout. Et bon, ils font, je veux dire, une espèce de meeting politique où des gens racontent tout et n'importe quoi. Si vous prenez tout ce qui gravite autour de l'UDPS, et vous prenez maintenant le contenu réel de ce qu'il y a dans l'UDPS, ce n'est pas des gens qui ont longtemps vécu en Europe, comme gigolo, comme traficoteur, certains ont des casiers judiciaires longs comme le fleuve Nil, c'est pas ces gens-là qui viendront travailler pour un pays. Tandis que au Congo, ce ne sont pas des personnes qui ont passé leur temps à manifester dans la rue sur injonction d'un gourou qui ne les a pas politiquement éduqués, qui répondaient comme des robots, en fait. Faites ci, ils le font, faites ça. C'est une espèce de réflexe pavlovien. Il suffit qu'on dise, celui-là est noir. Tout le monde se met à crier haro sur lui. Bon, désormais, il est blanc. Tout le monde se met à crier ave le nouveau blanchi. Bon, demain, on sort dans la rue, les gens ne savent pas pourquoi ils sortent. Bon, c'est bon, nous nous sommes entendus. Même s'il y a eu des morts, ils passent par pertes et profits. Cela montre que l'UDPS n'était pas préparé. L'UDPS n'est pas un parti politique. L'UDPS est un groupe mafieux et que le pays est entre les mauvaises mains.
Kérouine, on va passer au deuxième sujet de l'émission d'aujourd'hui. Merci en tout cas pour cette analyse, mais avant d'y aller, on va prendre une petite pause musicale. Et j'ai choisi aujourd'hui le groupe Musique Populaire de la Révolution. On va écouter la chanson Malembe.
Un. MPR. Malembe. Pardon, deux minutes. Ralentir, papa, aucun défi.
Non Timothée, Manuel, Ligue des Champions, Zouaka, Ronaldo, Messi, na Ibrahimovic.
Ozan a niveau ba gente. Oye bio le kisi kombe de fiancé. O ba gente bolingwe belem bongo mouke. Yang oza ba vie père ba financé.
Mais est-ce que ba bota mamba mon ba père tope ba zale non bilenge.
Eh, ne me provoquez pas. Ça j'aime pas.
Vie zandenge oye bilo bité. Toye bito za ba garçon milieu de.
Balela na kombo no safo. Oye misa mingi ba gaune tia salfo. Yena jige ote wane za vina yo. Toye bio lingi niveau me dose mouke malembe.
Koluko tcha ki sasa na moutou te za kilo.
Malembe ma.
Zala 100 jours et si la nada maza chou moko.
Malembe.
Koko somba montre moko kyo somba tante.
Kerwin, c'était le groupe Mouvement Populaire de la Révolution dans Malembe. Moi c'est un groupe que j'ai découvert récemment à la suite de la polémique sur leur chanson Nini Tosalité. Et j'avoue que je ne suis pas un gros fan de rap, mais franchement, ce qu'ils font me fait beaucoup de plaisir. Je ne sais pas ce que toi tu en penses.
Ils ont révolutionné quand même le rap à Kinshasa, les textes, le son et surtout leur accoutrement. Et cette façon un peu nostalgique, bien que nous ne soyons pas nostalgiques de Mobutu, mais c'est symbolique, hein. C'est cette façon nostalgique d'évoquer un père de Mobutu. C'est à la fois de la provoque, mais c'est toute une idéologie aussi derrière qu'il ne faut pas voir de façon simpliste. Mais par contre, leur style de rap a été lancé par le groupe Bahoutakine, qui à l'époque avec de gars tels que Vianney Misumbi connaît d'ailleurs très bien parce qu'il a été notre collègue à Raga, Rocky B, les Moby Dick, qui est ici en France, bon, Lucky Lonathan. Voilà, c'est un brin de musique congolaise et dessus, on chante et on rappe en même temps les mots de la société au lieu d'avoir cette expression très rappée, très rythmée comme un marteau, comme le font les Américains. Et ils font le style, un style mais typiquement congolais et qui a commencé à prendre.
Absolument, et en plus, ils ont créé leur univers, alors on n'est pas dans la nostalgie de Mobutu, ça je te le concède, mais en même temps, il y a aussi une part d'autodérision, j'imagine, derrière tout ça, et ça fait quand même bien voir, et c'est très beau à écouter.
Je vous recommande.
Moi, je recommande aussi, exactement.
Je vous recommande Dollar et l'Obélaï français.
Le Belay français, surtout pour ceux qui écouteront, qu'ils aillent vraiment jusqu'au bout, parce que la chute, elle est fabuleuse. On va revenir aux choses sérieuses, entre guillemets, mais bon, on va revenir au deuxième sujet de l'émission. On voulait parler de la CAN, et là, il y a une polémique qui a émergé, et je voudrais t'écouter là-dessus. Donc, il y avait déjà de problèmes d'organisation, il y avait des plaintes ça et là, il y a les équipes, par exemple l'équipe d'Algérie qui s'est beaucoup plainte. Et il y a eu le match de huitième de finale, Cameroun-Comores. Les Comores, c'était la première fois qu'ils arrivaient à la CAN, et pour une première participation, ils passent le premier tour, ils sont en huitième de finale, et doivent rencontrer le pays organisateur, ce qui n'est déjà pas facile. Et une bonne partie de l'équipe est décimée par la COVID-19, y compris les deux gardiens de but, alors que le troisième était blessé et ne pouvait pas jouer. Et donc l'équipe de Comores va jouer un huitième de finale, étape importante de la CAN, sans gardien de but attitré. C'est un défenseur qui prend la place. Alors que la veille, un des gardiens de but qui avait été testé d'abord positif a été testé négatif. Mais la Confédération africaine de football a changé les règles du jeu et a décrété que tout joueur testé positif devait désormais attendre 5 jours avant de jouer, ce qui mécaniquement empêchait les Comores d'aligner ce gardien qui pourtant avait été testé négatif. Donc on s'est retrouvé dans cette situation-là et le match commence, je pense, à la 6e minute, il y a une faute d'un défenseur comorien. Et l'arbitre sort le carton rouge. Alors, ça fait dire aux gens que le Cameroun serait favorisé, d'autant plus que depuis le début de la CAN, il n'y a aucun joueur camerounais, en tout cas très peu de joueurs camerounais, ont été testés positifs. Je pense que tu as suivi tout ça. Comment est-ce que tu réagis là-dessus?
la CAF se serait vraiment passée de cette affaire. Parce que tout ce qui touche l'Afrique est l'objet de railleries, de moqueries, et c'est regardé avec condescendance par les autres parties du monde, notamment par l'Europe et l'Amérique. On a déjà eu des soucis d'organisation. Le Cameroun, qui devait organiser la CAF il y a quelques années, n'a pas pu s'organiser, donc du coup, la CAF est allée en Égypte, en remplacement. Et lorsqu'on l'a ramenée au Cameroun, pendant qu'il y avait cette pandémie à la COVID-19 qui posait problème, le Cameroun a eu du mal à terminer la construction des infrastructures, malgré tout ce qu'ils ont eu comme prolongation. Il faut signaler que la CAN se joue avec une année de retard. Ça, c'est la deuxième des choses. Donc, certains stades ont été livrés les jours même, ce qui fait qu'il y a déjà quelques problèmes de pelouse. Bon. L'autre scandale, c'est cette affaire d'arbitre zambien, qui, avec un chrono et des assistants, a sifflé deux fois la fin du match avant la fin du match. Bon, la petite explication qu'ils ont.
Il aurait été victime d'une insolation.
Oui, mais il y avait des assistants, il y avait un commissaire au match, on pouvait trouver une solution de remplacement. Bon, les choses se sont passées telles qu'elles se sont passées. Il ne faut pas oublier que cet arbitre traîne déjà un passé sulfureux. Donc, normalement, on devait l'écarter, il ne devait pas être là. Avant d'en arriver à cette affaire de Covid, il y a eu un drame. Donc, dans un stade tout neuf, où vous attendez un match où les Cameroun, pays organisateur, devraient jouer, et en Afrique, on sait que les stades ne se remplissent que généralement lorsque l'équipe du pays organisateur joue, ces jours-là, il y a des grilles qui n'ont pas été ouvertes et il y a eu une bousculade. Le bilan actuellement est de 8 morts et une cinquantaine de blessés graves qui sont pris en charge dans les hôpitaux de la place à Yaoundé. Hein. C'était tout autour du stade Olembé. Ça aussi, on pouvait bien s'en passer parce que lorsqu'on organise un tel événement, on organise toujours des exercices par rapport à la sécurité, tout court, sécurité incendie. On regarde les grilles, est-ce que c'est bien placé, s'il y a affluence, comment on fait. Tout ça n'a pas été fait parce que le stade a été livré le jour même de l'ouverture de la CAN. Ça aussi, c'est un scandale.
On a un sentiment de désorganisation et d'improvisation continuelle. C'est vrai que ça donne pas une très bonne image de l'Afrique, là.
Ce n'est pas toujours un sentiment, c'est plutôt un constat. Bon, après, on en arrive à ces scandales. Bon, dans cette CAN, comme d'habitude, les pronostiqueurs ont dit que, bon, voilà les favoris, ce sont les grandes nations de football. Bon, il y a les Cameroun, il y a la Côte d'Ivoire, il y a les Ghana, il y a l'Algérie. Bon, voilà. On ne voyait pas venir tous les petits poussets qu'on avait bien minimisés. Le Burkina Faso, le Malawi, la Gambie et surtout les Comores, qui est là pour la première fois, même la Gambie aussi. Et quelle ne fut notre surprise de voir que dès les premiers jours, ces équipes ont joué sans complexe et ils ont fait passer un message clair qu'il faut compter avec nous. Et peut-être que l'une des équipes pouvait se retrouver en finale. Et il y a eu un problème. En fait, au Cameroun, on a constaté que toutes les autres stades, les matchs, ça s'est joué presque vite déjà. Et à Yaoundé, il y a deux stades, Olembé et Amadou Ahidjo. On s'est dit que si l'équipe du Cameroun partait, c'est fini. La CAN perd de tout son intérêt parce qu'il y aurait moins de monde dans les stades, et la fête serait gâchée. Donc, il fallait que les entraîneurs et les joueurs camerounais fassent de telle sorte que l'honneur de leur pays soit sauf sur le terrain. Bien après, tout ce qui s'est passé autour, surtout le changement des règles en pleine compétition, quelque chose qui ne se fait pas, c'est un motif à soupçon. Bon, Samuel Eto'o, le nouveau président de la CAFOOT, hein, comme confédération, FECAFOOT, pardon, Fédération camerounaise de football a beau dire que, bon, ce n'est pas ça, mais tel que les choses se sont passées juridiquement, techniquement, rien ne justifie le changement des règles en pleine compétition et cela devient juridiquement un motif à soupçon. Et on a vu les résultats. Donc, ils n'ont pas de gardiens, c'est une petite équipe, on change les règles, on les prive des gardiens, ils vont jouer à 10 sans gardien. Et le Cameroun ne les a battus que par 2-0. Si c'était une véritable équipe qui avait du moment...
Le but à 1, parce qu'ils ont quand même marqué, ils ont quand même marqué un super but sur coup franc. C'était un chef-d'œuvre.
En plus. Et le but... Alors, si on regarde...
Je pense sincèrement aussi que l'arbitre, sachant dans quelles conditions ce match se jouait, il aurait pu donner un carton jaune plutôt qu'un carton rouge à ce défenseur.
Tout cela, c'est des motifs à soupçon. On a assassiné sportivement l'équipe des Comores. Ah, on s'est dit, bon, c'est une lune lointaine, c'est un petit pays, ils ne vont pas être les grains de sable qui vont gripper la machine. Bon, ils ne vont pas venir jouer aux empêcheurs de tourner en rond. Alors, allez, oust. Mais c'était tellement flagrant que ça en devenait, mais excessivement décevant. Donc, le Cameroun ne peut pas être fier deux ou trois fois champion d'Afrique, je crois, deux fois, dans son propre pays, devant son public, en face d'une équipe qui joue pour la première fois, gagner dans ces compétitions, en tout cas, l'honneur et la fierté des Lions, je crois qu'ils devraient avaler leur crinière. C'était honteux et choquant.
Finalement, ils ont vraiment rendu l'équipe de Comores très sympathique, qui a été applaudie partout en Afrique. Et peut-être que ça va finir par créer une sorte de front commun contre le Cameroun là, dans les jours qui viennent.
Ben, sans compter les laboratoires de tests de la COVID, de tests contre la COVID, parce que, en tout cas, l'impression qu'on a, c'est comme si ces laboratoires constituent le 12e joueur du Cameroun. Donc, on a beau faire un front commun, si eux, ils ont et les arbitres et les laboratoires de leur côté, c'est-à-dire la pandémie de leur côté, bon, ils vont utiliser cette arme pour humilier les autres. Ce n'est pas digne d'un grand pays de football comme le Cameroun.
Kerwin Maïzo, on arrive à la fin. C'était le collimateur de l'actualité qu'on peut retrouver sur ta chaîne YouTube, oui. Kerwin Maïzo, qu'on peut retrouver sur sudglobalradio.net et qu'on peut retrouver aussi sur toutes les plateformes de podcast. J'invite nos auditeurs, nos téléspectateurs à partager, à aimer, à nous écrire, à commenter, pourquoi pas. On se retrouve dans une dizaine de jours pour un deuxième numéro. Merci Kerwin et à la fois prochaine, on salue Vianney Misumbi qui est à la régie.
Merci Magloire, merci Vianney. Ce fut un plaisir pour cette première et puis j'espère que nos web téléspectateurs et nos auditeurs et nos téléspectateurs ne nous ferons pas défaut la prochaine fois et qu'ils seront encore plus nombreux. Comme ça, on pourra partager avec eux l'actualité africaine.
Merci, à bientôt.
Je vous en prie, à bientôt.